Bonjour, nous marquons ce premier jour de déconfinement par un changement de générique et un changement de titre de magazine. Pour ce premier numéro de Déconfinez-vous à nous, nous avons joint par téléphone jeudi dernier Dominique, couturière bénévole. Vous exerciez le métier de, on dit, institutrice ?
J'ai commencé comme institutrice et j'ai terminé ma carrière comme professeur des écoles.
Et ça, c'était le drame ?
Je ne sais pas si c'était le drame, mais j'aimais bien le terme instituteur ou institutrice.
C'est juste le titre qui a changé ?
Il faut reconnaître que ça a changé, moi. Quand j'ai donc passé le concours de l'école normale, on le passait avec un bac. Et ensuite, on avait 2 ans de formation. Après, ça a changé, il a fallu une licence. Et on avait toujours 2 ans de formation, ensuite 3 ans, je crois. Et puis ensuite, c'est pendant les années Jospin, ça a rechangé. Alors, on était toujours instituteur, et ça a rechangé pendant les années Jospin. Et donc, il a fallu un master, et on est professeur des écoles. Sauf les instituteurs qui pouvaient, s'ils avaient assez d'années de carrière, ils pouvaient intégrer le corps des professeurs des écoles par, je ne sais plus trop, par quel moyen. Par l'ancienneté. Et sinon, on pouvait aussi intégrer le corps des professeurs des écoles en passant comme un concours, oui. Il y avait un certain nombre de places.
Vous avez exercé pendant combien d'années ?
37 ans. J'ai fait toute ma carrière en maternelle. Et je l'ai terminée sur un très beau projet à Nantes. C'était sous des années de mandat de M. Hérault. Et ils ont fait un très beau projet à Malakoff d'accueil de la petite enfance. Et donc, j'ai intégré ce projet-là et j'ai terminé ma carrière donc à Malakoff, dans le quartier de Malakoff.
Et vous l'avez terminé avec regret ou vous étiez contente de pouvoir prendre votre retraite ?
J'étais contente de pouvoir prendre ma retraite parce que bon, j'avais 3 enfants. Travailler en ZEP, c'est quand même un gros, gros investissement personnel. Mais ça a été vraiment les plus belles années de ma carrière. J'ai travaillé 10 ans à Malakoff et vraiment, au niveau professionnel, au niveau humain, ça a été vraiment une très, très belle période et bon, j'ai regretté tout ce foisonnement d'idées, d'attention à des familles qui étaient souvent quand même en grande précarité. Et ça, j'ai vraiment regretté. Ça a été un peu difficile. Mais sinon, j'étais contente aussi d'arrêter. Je savais que j'allais avoir des petits-enfants. Je savais que j'allais pouvoir faire plein d'autres choses. Donc, c'était bien aussi.
Mais quelle est la particularité de l'exercice du métier en ZEP, en zone d'éducation prioritaire ? C'est plus épuisant, ça demande plus d'énergie, ça demande plus d'attention.
Je pense que ça demande, je vais pas dire plus d'énergie parce que les collègues qui ne sont pas en ZEP, il faut déployer beaucoup d'énergie dans l'enseignement. Mais moi, j'étais contente de travailler avec ces familles qui étaient donc souvent en grande précarité, des familles étrangères, beaucoup, beaucoup de familles étrangères. J'étais, moi, sur le projet d'accueil des tout petits enfants de 2 ans. Donc, on avait des enfants qui arrivaient, qui ne parlaient pas français, dont les parents pouvaient être démunis. Et nous, notre travail, c'était d'intégrer au mieux ces familles, d'intégrer au mieux les mamans, parce qu'on voyait souvent les mamans, et de faire que l'école soit une joie et soit un plaisir de venir à l'école. Parce qu'on sait que des fois, c'est pas toujours si évident la relation avec l'école, avec des parents qui avaient été souvent en conflit, eux petits, avec l'école. Donc, c'était vraiment notre objectif d'intégrer ces familles et d'intégrer ces enfants pour qu'ils aient du plaisir à venir à l'école, pour pouvoir poursuivre une scolarité dans de bonnes conditions psychologiques.
Si vous exerciez aujourd'hui, vous seriez dans quelle disposition par rapport aux mesures de déconfinement et par rapport à la gestion d'une classe de maternelle ?
Je serais très très inquiète. J'ai lu un peu les recommandations qui sont mises en place pour accueillir des jeunes enfants. J'ai moi-même des petits-enfants, 2 petites filles qui vont en crèche, un petit-fils qui est en petite section. Et honnêtement, je considère que c'est presque de la maltraitance que de mettre les enfants dans des conditions pareilles. C'est-à-dire enlever, je parle de la maternelle, enlever tous les coins de jeu, plus de coins dinette, plus de coins de voiture, supprimer les bibliothèques, empêcher les enfants de faire du vélo dans la cour, ne pas utiliser les toboggans, à tel point que ce matin, j'ai ma petite fille qui va en crèche, j'ai dit à ma fille, écoute, tu la mets pas à la crèche, et nous on va la prendre, on va la garder. parce que avec des très jeunes enfants, je vois pas comment on peut travailler dans ces conditions-là. On peut pas mettre de puzzle, enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire ces petits? Moi, je trouve ça très très inquiétant et mes collègues qui travaillent toujours sont très très inquiets.
Les faire dormir comme ça dans la soirée, ils embêteront leurs parents avec toute l'énergie.
Oui, mais ça dort pas toujours comme on veut, en fait, un petit enfant. C'est ça le problème. J'en souris, mais franchement, j'en suis vraiment peinée. Il faut vraiment avoir vécu dans une classe, en plus en maternelle, pour se demander comment on peut travailler. Les enseignants vont être masqués. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas vu les enfants. Bon, les tout petits se seront re-raccrochés à leur maman, ce qui est normal. Là, on va les reséparer. Franchement, je pense que ça va être très, très difficile. Après, les enfants, ils s'adaptent, hein. Mais je ne sais pas si on a bien pensé à leur confort psychologique.
Quelle est la meilleure solution? C'est qu'il reste encore confiné à la maison ou d'essayer de trouver des nouvelles formules, de les adapter au fur et à mesure pour qu'il retrouve une vie sociale?
Peut-être qu'on aurait pu envisager plus sereinement une rentrée en septembre. Alors peut-être que c'est un galop d'essai, hein, pour le gouvernement, je ne sais pas, et qu'il faut mettre en place les choses en vrai pour voir comment ça peut se passer. Mais bon, je connais beaucoup de mamans, enfin beaucoup de familles qui ne vont pas remettre leurs enfants à l'école, hein. Il y a des enfants qui sont confinés à la maison ou pour qui tout va bien, il y a un jardin. Je pense que quand on habite dans un appartement à 5, 6, c'est beaucoup plus dur et peut-être qu'il aurait fallu recibler sur ces enfants-là qui ont peut-être plus besoin d'aller à l'école. Alors là, je parle aussi en primaire, à l'école élémentaire. Je ne sais pas. Je trouve ça vraiment très compliqué. Alors, on sait bien qu'il y a sans doute des motivations économiques derrière. Il faut que les parents retournent travailler. Sauf que tous les enfants ne seront pas accueillis. Il y en a qui vont être accueillis le matin, d'autres l'après-midi. Enfin, c'est... Bon, après, je pense que c'est sûrement très, très difficile au niveau gouvernemental de gérer ce genre de pandémie et tous les problèmes qui en découlent. L'école où va mon petit-fils, c'est une école qui est en ZEP, donc il est en petite section. Il y aura 5 enfants accueillis, les enfants de soignants, les enfants des enseignants et les enfants de gens qui peuvent être réquisitionnables ou des caissières. Donc tous les enfants de la ZEP, enfin qui habitent dans les immeubles, eux, ils n'iront pas à l'école. Ça pose question aussi. Mais en tout cas, sur les conditions d'accueil des enfants dans l'école, bon, les enseignants feront tout, hein, ce qui sera en leur possible pour bien les accueillir, pour bien les entourer. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que si, ben non, toi tu bouges pas, toi il faut pas rester là, tu t'approches trop près. Je pense que, enfin, j'aurais peur que ça soit anxiogène pour des petits enfants. J'ai des amis qui en ont parlé avec leurs enfants, où les petits, c'était 2 petits garçons qui avaient 8 ans et 5 ans, qui disent, ah ben oui, ben l'école sans les copains, c'est un peu comme Noël sans les cadeaux. Je trouvais ça assez mignon comme formulation.
Il n'y a pas d'enseignement de la couture en maternelle.
Non, 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 non. On joue avec des tissus, on travaille avec des tissus, mais on ne coud pas encore.
D'où vous vient la couture? Je ne sais pas si c'est une passion.
C'en est devenu une passion. Bon, je cousais un tout petit peu. Quand j'ai eu mon premier bébé, je me suis acheté une machine à coudre et j'ai cousu. Et ensuite, on a eu 3 enfants, donc il était hors de question de coudre entre mon métier, la famille. Et puis donc, quand je suis partie en retraite, j'ai eu le bonheur d'avoir une petite fille et donc je me suis remise à la couture pour elle. Et puis, c'est devenu une vraie passion. Je courais énormément pour eux. Mon idée aussi, c'était que on voulait acheter le moins possible de vêtements fabriqués au Bangladesh ou en Chine. Et donc, c'était un peu une forme de décroissance alliée quand même au plaisir de coudre et de créer quand même, parce qu'il y a quand même une démarche de création dans la couture. Même si je ne suis pas capable de faire mes propres patrons, je m'appuie sur les patrons déjà existants. Et la couture permet, oui, de se concentrer sur une tâche et c'est très plaisant.
Ça permet d'offrir des vêtements un peu plus originaux, moins standards en tout cas.
Oui, tout à fait. On fait plaisir avec les tissus. Et puis les petits-enfants adorent mettre les vêtements cousus par leur grand-mère. Ils sont toujours très fiers et nous aussi d'ailleurs. On est fiers. plaisir de les voir avec.
C'est à double tranchant, parce que si la grand-mère, avec toute sa bonne volonté, coûterait mal et impose le port du vêtement à l'enfant qui se trouve être la risée du groupe, ça peut être mal vécu.
Oui, tout à fait. Mais on s'applique aussi à faire des jolies choses. Et quand ils sont petits, ils sont très contents. Après, quand ils passent à dos, les vêtements cousus par les grand-mères, ils aiment moins. Mais après, ça revient. Il y a un grand plaisir mutuel, en fait, à offrir les vêtements, à les voir porter, et les enfants sont contents.
Expliquez-moi la prise de conscience pour mettre votre savoir-faire au service des gens qui avaient besoin de surblouses et de masques.
D'abord, quand on regardait les reportages sur ce qui se passait en Chine, on voyait bien que toutes les personnes qui étaient dehors portaient des masques, adultes comme enfants. On nous a dit que non, c'était pas du tout utile de porter des masques. Or, bon, ça paraissait un peu quand même bizarre, et donc je me suis un peu renseignée. Et entre autres, auprès d'amis médecins, leur réponse était « le masque peut au moins déjà servir à ne pas se toucher le visage, à prendre la conscience qu'on a quelque chose sur le visage et qu'on ne se touche pas le visage ». Au début, ils disaient « le visage, on se le touche, je sais plus, c'est un nombre incalculable de fois ». Je disais, mais non, mais moi, je me le touche jamais le visage. Et en fin de compte, on se rend compte que... Et donc, moi, le premier objectif du masque, c'était de ne pas se toucher le visage pour ne pas laisser le virus passer. Première toute petite prise de conscience. Ensuite, très très vite, les soignants ont appelé au secours en disant, on n'a pas de masque, on n'a pas de surblouse. Bon, d'une démarche personnelle pour coudre des masques pour un petit cercle familial, je me suis dit, ben, il faut aider. Donc, j'ai contacté des EHPAD, j'ai contacté des cabinets d'infirmières, des associations d'aide à la personne, et il y avait une grosse, grosse demande de masques. Donc, j'ai commencé à faire des masques. Au départ, on me disait, ben, on en voudrait bien 50, après, c'est passé à 200. Donc, j'ai cousu des masques, et puis, c'est créé le besoin d'avoir des surblouses. Donc, je me suis lancée dans la confection de surblouses. En fait, c'est sans fin. C'est sans fin. J'ai dû coudre plus de 500 masques, j'en suis presque à 600. J'ai cousu 50 surblouses pour des EHPAD, pour mon médecin qui m'en a demandé, parce qu'il a que des blouses en plastique dans lesquelles il est très très difficile de passer la journée. Donc voilà, c'était vraiment une démarche de solidarité et d'aide aux personnes qui étaient en première ligne et qui paraissaient quand même souvent désemparées devant cette pénurie de masques et de blouses. En allant porter des masques dans un EHPAD, il y avait sur une maison, en fait c'était une association d'aide à la personne, il y avait un immense drap blanc qui était accroché en disant « on a besoin de masques, on a besoin de surblouses, aidez-nous ». Donc je me suis arrêtée et j'aurais cousu, 20 blouses et 50 masques, qui maintenant paraît presque dérisoire. Enfin, on se dit 50 masques, mais qu'est-ce qu'on fait avec 50 masques? Il y a un tel besoin que c'est assez effrayant. Et d'ailleurs, il s'est créé entre autres sur Facebook, pas mal de groupes de couturières bénévoles qui cousent des masques. Et il y a eu beaucoup de mises en relation entre des demandeurs de masques et des personnes qui cousaient les masques. Il y a plusieurs groupes sur Facebook qui se sont lancés sur ces projets-là.
Vous y consacrez à peu près 6 heures par jour?
Bon, j'ai un peu freiné parce que faire de la couture à haute dose, on se retrouve à avoir des problèmes de dos, des problèmes de contracture musculaire, mais j'ai souvent cousu 6 heures par jour quand même. En fait, il y a la couture, mais il y a tout ce qui est en amont, c'est-à-dire préparer les tissus, couper les tissus, les assembler, ça demande aussi beaucoup de travail. Je ne voulais pas faire des masques non plus n'importe comment, parce que c'est quand même un outil, même si nos masques ne sont pas des dispositifs médicaux, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc il y a la FNOR qui a établi des normes précises sur la qualité des tissus, sur la matière à utiliser, sur les formats, sur des patrons de masques. Donc, en fait, moi, je me suis calée vraiment dans ces normes-là et tous les conseils qu'ils donnaient pour coudre les masques.
Vous avez fourni la matière première, le tissu, les élastiques, le coton?
Oui, alors au début, effectivement, j'ai pris dans mes stocks de tissus parce que les couturières ont un gros défaut souvent, c'est qu'elles ont beaucoup de stocks de tissus. Et puis, elles se disent, oh là là, mais il faut plus que j'en rachète parce que là, j'en ai vraiment trop et il faut que j'utilise mon tissu. Donc, moi, j'en avais un peu quand même. Donc, j'ai tri dans mes stocks personnels. Donc en fait, ça fait des très jolis masques, hein, parce que on essaye d'avoir des jolis tissus. Par contre, en respectant toujours le coton, des tissus serrés et des tissus neufs, je n'ai jamais utilisé de tissus récupérés sur des draps ou des choses comme ça pour faire des masques. J'ai toujours pris des tissus neufs. Donc j'ai beaucoup utilisé mes stocks. Et puis, il y a une association d'aide à la personne qui m'avait demandé des masques et elle m'a fourni les tissus, le fil, les aiguilles et puis bah, tous les élastiques qu'on avait dans les maisons. Et maintenant, ça devient une denrée très rare et très chère, l'élastique. Mais bon, toutes les couturières ont des tas de bonnes idées. Et maintenant, on découpe des t-shirts pour faire des petites lanières qui peuvent servir à accrocher les masques.
Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de concours du plus beau masque avec le plus joli tissu?
Bon, on aime bien présenter nos masques, mais le but, c'était pas ça. Le but, c'était pas le plus joli masque. Le but, c'était le masque le plus efficace possible, qu'on appelle, nous, barrière anti-postillon, parce que on sait bien que nos masques n'auront pas... Maintenant, on peut faire tester ces masques. Hein. C'est depuis une semaine à peu près, des couturières professionnelles peuvent faire tester leurs masques et ils peuvent être homologués, en sachant que pour les couturières, ça leur coûte 1100 euros hors taxe pour pouvoir faire homologuer leurs masques. Il y a toutes les couturières bénévoles, comme moi, qui n'avons pas besoin de vendre nos masques pour pouvoir vivre. Mais par contre, il y a aussi toutes les couturières professionnelles qui se sont retrouvées sans aucune rentrée d'argent depuis le début du confinement et qui ont besoin, elles, de vendre leur production, leurs masques. Là, ça a été assez compliqué parce que d'abord, maintenant, il faut qu'elles les fassent donc homologuer. Après, c'est normal qu'on mette en place des critères de qualité des masques, parce qu'on peut pas non plus donner n'importe quoi. Mais sur les réseaux sociaux, c'est souvent assez difficile parce que beaucoup considéraient que les masques devaient être donnés et de nombreuses couturières professionnelles se sont fait quelquefois même insulter en leur disant qu'elles n'étaient pas solidaires, qu'on devrait offrir les masques à tout le monde. Or, tout le monde ne peut pas offrir les masques. Je pense qu'il y a vraiment travail à faire là sur les couturières bénévoles et les couturières professionnelles qui, elles, ont besoin de vendre des masques pour pouvoir vivre.
Vous ne vous êtes jamais sentie concurrente de ces professionnels?
Au début, ce n'était pas ça. Non, non, non. Non, je ne suis pas concurrente parce qu'il y a une telle demande que je pense que pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'être en concurrence. Au départ, les couturières professionnelles, même, elles ont offert leurs masques. Maintenant, la situation a un peu changé. Mais j'ai été choquée, par exemple, il y a quelque temps, 3 semaines, 1 mois à peu près, d'avoir des municipalités qui demandaient à des bénévoles de coudre des masques. Entre autres, une municipalité de la côte atlantique, que je n'ai peut-être pas envie de nommer. Et cette municipalité a demandé 200 masques à des couturières bénévoles pour leur personnel municipal et puis pour, je crois, la police municipale. Et là, je me suis dit, ben, on marche sur la tête quand même. Enfin, une municipalité riche, comme ça, qui demande à des bénévoles de coudre des masques pour elle, non. Il faut qu'elle embauche des couturières et qu'elle paye des couturières à travailler pour qu'elle puisse vivre. Il y a des entreprises aussi qui demandent des masques bénévolement comme ça. Mais non, il faut aussi ouvrir les yeux sur les conditions de vie de certaines. Parce qu'il fallait les coudre, mais il faut donner des tissus. Or, des tissus, ça coûte cher. Des tissus de bonne qualité. Les machines à coudre, elles souffrent hein, quand elles marchent comme ça 6 heures par jour. Et puis tous les problèmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les problèmes physiques qui peuvent découdre, de coudre à haute dose comme ça. Donc après, il faut aller chez l'ostéopathe pour remettre en place tous les muscles qui ont été sollicités de façon intensive.
À présent, vous avez quasiment arrêté votre grande production. Là, ça s'adresse simplement à votre entourage familial, voisin peut-être.
Oui, entourage familial. Bon, là, il commence à être bien pourvu en masque. Mon médecin travaille avec des gens qui sont en grande précarité. Donc, il m'en a demandé. En fait, je vais coudre pour réseau très, très proche et puis pour donner pour mon médecin. De toute façon, la pandémie, elle est loin, loin, loin de s'arrêter. Donc, je pense que des masques, il va y en avoir besoin longtemps. Et là, du coup, c'est des masques à titre gratuit. Enfin, de toute façon, je les ai tous toujours donnés parce que les masques lavables hein, doivent être vendus entre 5 et 10 euros. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent... Et si les gens sortent beaucoup, ben, il en faut au moins 2 par jour, pratiquement. S'il y a des ados, des grands-enfants qui vont avoir besoin de masques, ça va coûter cher. Je pense que pour certaines familles, ça va être un budget important. Donc là, je vais continuer à coudre un peu. Mais j'arrête un peu, parce que c'est fatigant. Ça, je pense que ça demande beaucoup d'énergie.
Ces masques, ça ne se reprise pas?
Ah non, ça, non. D'abord parce qu'on ne sait plus repriser. Et puis, il faut absolument pas qu'il y ait de trous, même de petits trous de piqûres d'aiguille sur le devant du masque. Puisqu'il ne faut aucune entrée. Déjà que les virus, ils ont tendance à se faufiler un peu partout. Non, non, ça ne peut pas se repriser. Ça se jette.
Merci à Dominique pour sa libre participation à ce premier numéro de Déconfinez-vous à nous.
On commence à recevoir des masques par les mairies. Je vois le soin que les couturières, alors donc moi j'en ai fait partie, mais que toutes les couturières prennent à faire les masques. Et des fois, certaines sont un peu surprises de voir les masques qu'elles reçoivent, qui sont pas forcément plus protecteurs que ceux que nous on peut faire dans nos petites cabanes de couture, comme j'appelle chez moi ma cabane de couture.